les podcasts dynamiques. Épisode 5, harcèlement, cyberharcèlement. Bonjour et bienvenue dans les podcasts dynamiques, le complément radiophonique de la revue professionnelle de protection judiciaire de la jeunesse, les cahiers dynamiques. Ce podcast vous invite à découvrir notre dossier sous un angle différent, à travers un dialogue entre les auteurs et autrices des articles publiés dans la revue et des extraits de terrain. L'occasion d'entendre la parole des professionnels ou des premiers concernés, enfants et adolescents. Ces éclairages audio s'adressent à vous, lecteurs des cahiers dynamiques. Que vous soyez étudiant, chercheur ou professionnel, intéressé par les champs de la protection de l'enfance et du travail social. On vous propose de prendre du recul et d'explorer la complexité de sujets qui sont les vôtres et que nous trouvons, nous, à la fois essentiels et passionnants.
Et là, la porte s'ouvre, Sarah débarque, suivie de Manon et Ophélie. Elle me dit « Ça va sonner là, tu peux nous voir ton tour ici ?»«
Ben, bien sûr. » Je souris, moi je tiens enfin ma chance de les impressionner. Je tends les cartes, elle en prend une, qu'elle déchire, méticuleusement, en petits morceaux et hop, dans la cuvette des toilettes. Elle me dit « Oups, j'ai perdu la carte, je peux en prendre une autre ?» Elle m'arrache le paquet des mains et continue de déchirer mes cartes. J'en ai marre, il est trop nul ton jeu. Et elle flanque tout le paquet d'un coup au fond des toilettes, sans jamais me quitter des yeux. J'ai rien fait. Et là, elle me dit, récupère-les. Oh, récupère-les, je te dis. Je me suis contentée d'obéir. J'ai récupéré la boule informe et dégoulinante dans l'eau et la pisse. Et je me suis tue. J'ai même baissé les yeux. Cette trouille! Je me sens paralysée, anesthésiée, envie de me cogner la tête contre les murs.
Cette scène de harcèlement scolaire introduit notre sujet du jour. Elle est extraite de la pièce de théâtre « Ne vois-tu rien venir ?», adaptée et jouée par la comédienne Isabelle Richard, accompagnée du violoncelliste Valentin de Franqueville, à partir du roman écrit par Amélie Antoine à destination d'adolescents. Cette pièce, captée lors d'une représentation à l'Ambersart en décembre 2025, va nous servir de fil rouge tout au long de cet épisode. Elle a la particularité de mettre en scène le harcèlement, vécu à la fois du point de vue de la victime, Orlane, et du point de vue de sa harceleuse, Sarah, et même au-delà, en s'intéressant aux différents protagonistes en jeu dans ce type de situation, camarades, témoins, complices, parents, professeurs ou encore personnel éducatif. Si les cas de harcèlement défraient régulièrement la chronique, alarmant médias, parents et même enfants, l'éducation nationale tout comme la justice ont fait de ce sujet une préoccupation majeure, aboutissant à un plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l'école et le cyberharcèlement. Dans notre numéro, Eudoxie Gaillardeau, maître de conférences de droit privé et sciences criminelles à Aix-Marseille Université, revient sur les évolutions législatives et ce qu'elles disent de la prise en charge pénale du phénomène.
La loi du 2 mars 2022 marque véritablement une étape dans la lutte contre le harcèlement scolaire en ce qu'elle crée une qualification pénale censée garantir le droit de tout élève à suivre une scolarité sans harcèlement. Même si cette qualification pénale a été critiquée pour sa construction imparfaite, elle a permis la construction d'un solide partenariat école-justice afin de faciliter le signalement, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, des situations de violence subies par les mineurs scolarisés et leur prise en compte rapide par les parquets. Eudoxie Gaillardeau, Harcèlement scolaire, que dit la loi du 2 mars 2022 ?
Mais commençons par le début. Qu'est-ce que le harcèlement ? Benoît Galland, docteur en psychologie et professeur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain, est spécialiste du sujet et invité de notre numéro. Il nous explique que la recherche propose au moins deux approches du phénomène.
Pour schématiser, on peut dire qu'il y a deux positions pour l'instant parmi les chercheurs. Il y en a une qui dit qu'il y a en fait trois éléments qui sont vraiment essentiels pour qu'on puisse qualifier un événement de harcèlement. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait agression. Donc, c'est des actes négatifs qui sont délibérés. Le second, c'est qu'il faut qu'il y ait répétition. Et le troisième, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de déséquilibre de pouvoir entre les protagonistes. Je préfère dire que l'agression n'est pas réciproque, parce que ça me paraît plus clair. Mais donc, ça, c'est vraiment trois éléments qui sont au cœur de la définition que les scientifiques utilisent, en tout cas qui est débattue par les scientifiques. D'autres scientifiques vont s'opposer à ça en disant qu'on ne peut pas faire de harcèlement une catégorie à part, comme étant clairement distincte des autres, et le voient plutôt comme une position sur un continuum qui va des relations totalement collaboratives et pacifiques à des relations très dégradées qui peuvent aller jusqu'à l'agression physique, voire le décès de la personne agressée.
Dans l'entretien que nous avons eu avec elle, Emmanuelle Piquet, thérapeute rattachée à l'école de Palo Alto et maîtresse de conférences à l'Université de Liège, nous explique que pour comprendre le harcèlement, la pathologie de la relation occupe également une place centrale.
Gregory Bateson, qui est un des penseurs, hein, un anthropologue qui a vraiment révolutionné les sciences humaines, comme vous savez, parlait d'un, employé un terme très barbare qui s'appelle la schismogenèse, mais qui n'est en fait rien d'autre que cette définition systémique encore de la relation, qui est en l'occurrence en matière de harcèlement, qu'il soit d'ailleurs conjugal, professionnel, scolaire ou social, il définissait ça comme une escalade complémentaire entre, d'un côté, en effet, un leader souvent entouré d'une meute ricanante en ce qui concerne le scolaire, c'est pas forcément le cas ailleurs, donc qui est de plus en plus en position haute, en position d'emprise, en position de toute puissance, et de l'autre côté un individu, de l'autre côté de cette interaction donc, un individu souvent seul qui est lui de plus en plus en position basse, en position sous emprise, extrêmement recroquevillé.
Que dire alors du cyberharcèlement ? À l'exemple de la réflexion initiée par l'historien Jean-Jacques Ivorel dans son article intitulé « Le harcèlement scolaire ou la naissance d'un problème social », on peut se demander si le préfixe « cyber » accolé au terme de « harcèlement » modernise et aggrave le problème. Une des spécificités des enfants est que, les concernant, le cyberharcèlement est très souvent un prolongement du harcèlement en face à face et survient donc rarement seul, à la différence des adultes. Les résultats de l'enquête en classe présentée dans notre numéro sont à ce titre éclairants.
En 2024, 5,8% des collégiens déclaraient avoir été victimes de harcèlement 2 ou 3 fois par mois au cours des 2 derniers mois. 4,2% victimes de cyberharcèlement au moins 2 ou 3 fois par mois au cours des 2 derniers mois. Le développement du numérique et des réseaux sociaux a profondément modifié les expériences de harcèlement en créant de nouvelles conditions d'exposition qui dépassent le temps et le cadre de l'école. La particularité du cyberharcèlement réside dans la répétition facilitée par la viralité des réseaux sociaux. Un message posté une seule fois peut être vu des milliers de fois, créant une victimisation continue. Marianne Santenac, Emmanuel Godot, Stanislas Pilka et Virginie Ellinger, le harcèlement entre collégiens dans les données de l'enquête en classe, un enjeu de protection et de santé publique.
Sarah et Siamoise se sont amusés à récupérer certaines de mes photos et vidéos de ma chaîne YouTube et de mon Instagram pour les modifier, les partager et me ridiculiser. Alors, j'ai tout effacé une bonne fois pour toutes. Alors, elles se sont rabattues sur le groupe WhatsApp de la classe. J'ai quitté le groupe. Alors, elles ont commencé à me harceler directement sur mon portable. Appel en numéro masqué avec à chaque fois le silence au bout du fil. Ou des croassements de corbeaux. Des dizaines de textos à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Même sur le fixe.
Auteur, victime, harceleur, harcelé, témoin, groupe, entourage familial et éducatif, dans ces situations, les acteurs sont multiples. Intéressons-nous dans un premier temps au vécu des victimes. Un nouveau détour par la pièce « Ne vois-tu rien venir » peut nous permettre de l'appréhender.
Ce matin, dès que je franchis les grilles du collège, je me prends conscience que la journée va être longue. Sarah et ses copines ont dû donner leurs instructions parce que dès que je croise le regard de quelqu'un, ils s'empressent de faire tomber ce qu'il y a dans les mains. Sac, écharpe, trousse, téléphone. Ils m'imitent tous quand j'ai fait tomber mes cartes. Hilarant, hein ? Et inventif. Ce midi, quand j'arrive dans le réfectoire, je me dirige vers la table où vient de s'installer Maïssa. Vous savez, hein, ma copine, ça, je vous en ai parlé. Eh bien là, je sais pas, elle m'accueille avec un sourire gêné. Je sens que quelque chose a changé. Que, je sais pas, elle va me laisser tomber. Non, m'abandonner. Non, mais si j'ai dit un truc qui t'a blessé, enfin, je suis désolée, quoi, mais dis-le-moi. Non, Orlane, ça n'a rien à voir. C'est juste que moi, eh ben, je commence à avoir peur que Sarah, elle s'en prenne à moi, tu vois. Juste parce qu'on traîne ensemble. Je suis désolée, Orlane, je sais que c'est là, je suis incapable de supporter ce qu'elles te font subir là, depuis la rentrée, quoi.
Bien qu'étant celui d'un personnage de fiction victime de harcèlement, le vécu d'Orlane comporte des caractéristiques qui résonnent avec les résultats de la recherche scientifique. Si Benoît Galland tient à nuancer la question d'un profil type, il évoque des éléments qui tendent à être significatifs d'un point de vue statistique.
Ce qu'on peut mettre en évidence comme caractéristique des victimes, c'est plutôt deux choses principales. C'est une détresse émotionnelle. Donc les victimes se sentent mal, elles ont une perte de confiance en elles. Et souvent, les victimes se sentent plus isolées et sont rapportées par les autres élèves comme étant plus isolées socialement. Là où ça se complique, c'est de savoir si ces caractéristiques-là, c'est un facteur de risque pour devenir victime et ou est-ce que c'est la conséquence de la victimisation. Et là, on doit aller regarder dans des études qui font plutôt du travail longitudinal où on suit les jeunes pendant plusieurs années. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est un effet réciproque, c'est-à-dire que de fait, vous êtes nouveau dans un groupe, vous connaissez moins les gens, vous arrivez dans un groupe qui est déjà formé, ben, vous êtes plus à risque de devenir victime que si vous avez déjà des relations fortes au sein du groupe. Et en effet, le fait d'avoir des difficultés en santé mentale, par exemple, donc d'avoir des choses qui vous mettent en détresse, qui vous font vous sentir mal, peut-être aussi pour des raisons familiales, pour des raisons amoureuses chez les adolescents, fait qu'évidemment, vous avez moins de ressources pour pouvoir réagir quand on essaye de vous embêter. Et donc, ça vous met un peu plus à risque. Et réciproquement, comme je disais, ben, le fait d'être vous-même la cible de harcèlement, ça va renforcer votre détresse émotionnelle, ça va vous faire un peu perdre pied, perdre confiance en vous. Ça va faire en sorte que les autres vont peut-être plus vous éviter parce qu'ils n'ont pas envie de devenir la prochaine victime, ils ont peur. Et donc, ça va, vous voyez, le cercle vicieux peut s'installer vraiment dans ce sens-là.
Et maintenant, intéressons-nous aux auteurs. Comment des enfants ordinaires, nos enfants, peuvent-ils ou elles devenir les agresseurs d'autres enfants ? Un des intérêts majeurs du roman d'Amélie Antoine est que la parole est donnée à deux personnages antagonistes, interprétés sur scène par la même comédienne.
Je décide d'aller faire un tour dans les vestiaires pendant que le prof a le dos tourné. Et je repère le sac de sport d'Orlane. Et avec ma briquette de jus d'orange, je perce le petit trou en aluminium avec la paille. Et j'arrose toutes ses fringues. Et je savoure déjà la tronche qu'elle m'a tirée. Et puis elle va devoir rester en jogging dégueu toute la journée. Quoi ? Bah hé, on s'amuse comme on peut, hein. Moi, j'attends sa réaction. Qu'elle cherche le coupable. Qu'elle lance des accusations. Bah non, elle dit rien. Se contente de refermer son sac et puis d'enfiler son blouson au-dessus de son survêt tout pur en sueur. Mais j'ai jamais rencontré une fille aussi molle. Ma mère, on croirait avoir affaire à une éponge humide collée sur le bord d'un évier. Ça suffit. entends sa voix. Ah, ça m'exaspère. Ah, ben, j'y peux rien, hein. C'est comme ça. Tout m'exaspère chez elle.
Pour Benoît Galland, s'il est important, une fois encore, de ne pas sombrer dans la caricature des profils, il existe deux grands types de harceleurs. Le premier profil est celui de l'auteur en souffrance, victime qui se vengerait d'une violence subie et dont on parle le plus souvent. Or, pour la recherche, il ne constitue qu'une minorité d'enfants. Qu'en est-il du second profil ?
On a beaucoup d'auteurs de harcèlement à l'école qui semblent pas avoir de problèmes de compétences sociales, qui semblent pas nécessairement avoir de problèmes de gestion des émotions, ni même d'intégration sociale, ni même de difficultés scolaires, mais qui se sont à un moment donné engagés dans une conduite de harcèlement vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes dans l'école, et puis continuent visiblement développent aussi toute une série de croyances qui quelque part justifient leurs actes. Donc, ils vont plutôt euphémiser ce qu'ils racontent. Ils vont dire que ce n'est pas si grave. Ils vont blâmer la victime pour ce qui se passe. Donc, en disant, mais si la victime se défendait, si elle n'était pas aussi bizarre, si elle avait des comportements plus appropriés, si elle faisait comme tout le monde, voilà. Ils vont dire que tout le monde rigole de cette personne. Donc, en fait, pourquoi ils ne pourraient pas le faire ? Donc, c'est ce qu'on appelle un phénomène de désengagement moral. Ils vont comme ça trouver toute une série de raisons qui justifient ce qu'ils font et qui font qu'en fait, ça ne les dérange pas trop. Ils ne se sentent pas coupables d'embêter cette personne-là en particulier. Et qui ressentent évidemment du coup peu d'empathie pour cette personne-là en particulier, alors qu'ils sont tout à fait capables d'empathie pour leurs camarades, leurs amis, leurs familles, leurs proches, etc.
Pour la plupart des contributeurs de notre numéro, il est essentiel d'envisager la situation de harcèlement dans toute sa complexité. Fouzia Sedaoui, docteure en sciences de l'éducation et formatrice à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, privilégie ainsi une définition dynamique du harcèlement.
Il convient de préciser que la situation de harcèlement est souvent illustrée selon le triptyque classique « harcelé, harceleur, témoin », schématisé par un triangle. Or, nos observations montrent que chaque acteur peut changer de rôle à tout moment. Nos données nous conduisent à privilégier une représentation par un cercle interactif, lequel permet de souligner la porosité des rôles. Fouzia Sedaoui, comprendre les impostures en situation de harcèlement pour activer le pouvoir d'agir empêché des élèves.
Il a suffi d'un coup de fil, avant-hier matin, pour que tout s'effondre. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. Mais merde, qu'est-ce que j'ai loupé au juste ? C'est possible ça ? De vivre tous les jours avec son enfant ? Sans savoir qui il est vraiment ? Est-ce que Sarah ? Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être un monstre ?
Cet extrait de la pièce, Ne vois-tu rien venir ? Nous met face à la sidération et à la peur d'un parent de méconnaître son enfant. Et ce constat, nombre de professionnels le font dans ce dossier, pour l'ensemble de l'entourage adulte qui gravite dans les différentes sphères de la vie de l'enfant. Alors, face à ces réalités, la question qui se pose à nous, adultes, c'est avant tout comment agir ? Et les enfants savent-ils vers qui se tourner en cas de problème ? Un échange avec les adolescents dans la salle, suite à la représentation de la pièce à Lambersart, semble montrer qu'il et elle le sauraient, du moins théoriquement.
Est-ce que vous avez déjà vécu une situation de harcèlement ?
Alors, moi, personnellement, non, pas de m'en souvenir, mais j'ai été témoin, je pense comme beaucoup d'entre nous, d'entre vous, ici, deux situations de harcèlement. Et donc c'est une grande question, et c'est une question que je peux te retourner. Si tu es témoin de harcèlement, qu'est-ce que tu fais ?
Je me dirais un adulte.
À quel adulte, par exemple ?
La CPE.
Alors la CPE, à qui d'autre ?
Au surveillant.
Ouais, au surveillant. À qui d'autre ?
Au prof.
Au prof. Ok. À qui d'autre?
À mes parents.
Ouais, ils sont loin dans le classement, les parents. Ouais.
Est-ce que vous savez qu'il y a un numéro vert sur le harcèlement?
Oui.
Vous le connaissez? Combien?
38.
Pourtant, selon le point de vue de la recherche, le phénomène est souvent sous-évalué par les institutions. Tout se passe plutôt entre enfants, échappant au radar des adultes dans une certaine loi du silence. Et de nombreux témoignages d'enfants font également état d'une prise en charge qui n'est pas toujours à la hauteur des situations vécues. Quelles sont les solutions? Quels outils, quelles méthodes ont été développées? Quelles approches fonctionnent le mieux? Dans ce numéro, il est question de s'accroupir auprès des victimes afin de les outiller pour qu'elles reprennent le dessus sur leurs agresseurs. D'avoir recours à la méthode de la préoccupation partagée qui apporte un soutien inconditionnel à la victime, rompt l'effet de groupe et redonne sa place à l'adulte. Il est également question de penser les sanctions, de créer des cercles restauratifs, de proposer des médiations éducatives qui permettent, au-delà des aspects moralisateurs, de travailler l'empathie, les émotions par le théâtre ou par le jeu, par exemple. Et finalement, qu'en dit la recherche?
Pour l'instant, de ce qu'on peut lire de la recherche, c'est plutôt de dire qu'il n'y a pas raison de privilégier une approche par rapport à l'autre, ni d'en exclure une par rapport aux autres. Donc, à certains moments, une sanction, voire une punition pourrait tout à fait être justifiée. D'autres fois, on va travailler plus avec la victime et on va mobiliser l'entourage. On peut combiner différentes approches. Ce qui semble intéressant, c'est, puisqu'on n'est pas sûr que ça va marcher, ça veut dire qu'il faut absolument contextualiser, il va falloir faire au cas par cas, se dire, tiens, qu'est-ce que moi je comprends avec mes collègues de la situation? Et en fonction de ça, on va choisir une stratégie. En tout cas, nous, c'est notre lecture à nous. Et de dire, donc, évitons absolument de dire aux professionnels, quand il y a du harcèlement, voilà absolument ce que vous devez faire. Donc, c'est-à-dire de prendre une recette qu'on applique à chaque fois. Nous, il nous semble que ça, ce n'est pas la stratégie la plus porteuse, mais qu'au contraire, il vaut mieux demander aux intervenants de se mettre dans une attitude d'écoute et d'analyse de la situation, puis de prise d'informations auprès de collègues, etc., pour après se dire, OK, parmi les voies possibles donc, qu'on a aujourd'hui, voilà celles qu'on va mettre en œuvre, et puis on va faire un suivi, une évaluation, pour s'assurer que ça va bien et que ça évolue bien dans la bonne direction. Ce qui me semble important, en tout cas, quand on est en milieu éducatif, que ça soit en centre résidentiel, à l'école, etc., c'est l'importance de prendre en compte tous les parties prenantes de la situation. Parce que l'une ou l'autre stratégie peut paraître gagnante pour la victime, pour l'autre, etc. Mais quand vous êtes en milieu éducatif, en général, vous devez jouer avec tout le monde. C'est-à-dire que vous allez devoir continuer à fonctionner avec à la fois les auteurs, les victimes, les témoins. Et donc, c'est très important dans la stratégie qu'on va mettre en place pour traiter une situation, de bien prendre en compte l'ensemble des personnes qui sont concernées et comment est-ce qu'on va prendre soin du collectif.
On le comprend, il n'existe pas de solution miracle ou clé en main. Nous ne pouvons que rappeler la complémentarité des différents acteurs de la communauté éducative entourant les enfants. Parents, professeurs, CPE, directeurs d'établissement, éducateurs, thérapeutes et spécialistes du sujet gagneront toujours à travailler main dans la main avec les victimes comme avec les auteurs. Notre dossier présente ainsi une multiplicité d'approches qui permettra à chacun de s'en inspirer. Insistons néanmoins sur un aspect fondamental. L'action fonctionne toujours sur deux jambes, prévention et intervention. L'adulte qui intervient en prévention n'est crédible que s'il est aussi capable de gérer les situations qui posent problème. Quittons-nous à hauteur d'enfant, en écoutant le témoignage d'une jeune fille accueillie dans le cadre d'un atelier radio, animé par l'éducatrice Christelle Garraud au service territorial éducatif d'insertion PJJ de Montpellier. Preuve qu'une intervention opportune peut quelquefois tout changer.
Quand on est différent, souvent on se fait insulter, rabaisser et parfois même frapper. Et c'est ce qui m'est arrivé. Dès le collège, je me sentais pas à ma place. J'étais bien différente des autres. J'étais la petite grosse que personne n'aime. Je pense que les adultes devraient être plus concernés par tout ça. Parfois les jeunes ont du mal à parler parce qu'ils ont peur que ça devienne pire. Mais dans mon cas, j'ai parlé très vite. Mais au départ, les adultes n'ont rien fait. Et mon harcèlement a duré du collège jusqu'au lycée. Heureusement, au lycée, j'ai rencontré une CPE qui m'a beaucoup aidée. Elle était gentille, drôle, et surtout, elle m'écoutait vraiment. C'est la première qui a vraiment compris ce qui se passait. Elle a pris beaucoup de temps pour moi. Elle m'a fait changer de lycée, et elle m'a accompagnée pour que ça se passe bien dans le nouveau. Elle était là physiquement avec moi. Elle a expliqué aux élèves et aux profs ce qu'il m'était arrivé. Et ça a tout changé. À partir de là, j'ai eu plein d'amis. Pour moi, ça a été la seule solution. Même si j'aurais quand même préféré que ce soit ma harceleuse qui parte. Mais dans mon cas, ça a été tellement loin qu'il valait mieux que ce soit moi. Pour éviter ce que j'ai vécu, il aurait fallu que des adultes interviennent dès le début, comme ce qu'a fait cette CPE. Je ne l'oublierai jamais et je pense encore à elle à l'heure d'aujourd'hui. J'ai réussi à m'en sortir et je pense que tout ce que j'ai vécu m'a forgé. Ça a fait la personne que je suis devenue aujourd'hui.
C'était un nouvel épisode des Podcasts Dynamiques, votre complément audio du numéro 87 de la revue Les Cahiers Dynamiques, une production de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Présentation, Perrine Cheval, rédactrice en chef de la revue. Lecture des extraits de texte, Marjolaine Réfrégier, chargée d'édition. Réalisation, Magali Nérac pour le studio Alaphonie, en mai 2026. Merci à Amélie Antoine, Isabelle Richard, Valentin de Franqueville et aux éditions Syros qui nous ont autorisé à utiliser les extraits de la pièce « Ne vois-tu rien venir ?», adaptation du roman du même nom. La pièce a été captée lors d'une représentation à Lambersart en décembre 2025. Merci aux contributeurs du dossier cyberharcèlement du numéro 87 de la revue Les Cahiers Dynamiques, Jean-Pierre Bellon, Sonia Corré, Virginie Ellinger, Benoît Galland, Eudoxie Gaillardot, Emmanuel Godot, Margot Lenné, Sophie-Maurice Pluchon, Emmanuel Piquet, Marie Cartier, Marjorie Roch, Claire Rossini, Fouzia Sedaoui, Marianne Santinac, Stanislas Pilka et Jean-Jacques Ivorel.